Bonjour et bienvenue dans cette émission Église en marche. Avec vous aujourd'hui Jean-Claude Becker. Nous recevons Guy Orange sur l'antenne de Radio Grand Ciel. Bonjour Guy, merci d'être avec nous au téléphone.
Bonjour à chacune, à chacun.
Guy Orange, vous êtes marié, vous avez des enfants et des petits-enfants. Vous avez été avocat au barreau de Paris, président du CCFD Terre Solidaire, le Comité catholique contre la faim et le développement, de 2008 à 2016, je crois.
Oui.
Président de la Fédération internationale de l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Et l'ACAT et le CCFD sont deux organisations qui sont présentes et actives sur le diocèse de Chartres. Vous êtes aussi membre du comité scientifique des Semaines sociales de France. C'est une belle carte de visite. Pourriez-vous nous dire en quelques mots, si c'est possible, qu'est-ce que tout ce chemin parcouru vous a apporté? Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué, réjoui, blessé?
La première chose qui m'a vraiment réjoui et qui continue de m'aider à me lever chaque matin, c'est de rencontrer des hommes, des femmes, soit solitaires, soit plutôt en groupe, qui n'acceptent pas l'inacceptable et qui se lèvent. Alors, ils s'organisent, ceci aussi bien en France qu'à travers le monde. Et moi, c'est leur courage qui me... Voilà, c'est lui qui me motive au sens fort du terme. Et puis, comme chrétien, j'y vois une expression du souffle de vie. Donc, vraiment, c'est ça que j'ai appris à travers tant mon métier d'avocat, la parole, bien sûr, que les engagements dans les associations, c'est le poids de la solidarité.
D'accord, donc ce sur quoi vous insistez, c'est l'importance d'être ensemble, en groupe, et pas un peu perdu dans son coin.
Oui, c'est l'importance, et j'ajoute, c'est l'efficacité, parce que je suis aussi un pragmatique en même temps, c'est pas simplement une solidarité, tiens, pour faire joli, ou pour faire plaisir au bon Dieu. C'est la solidarité, c'est efficace, j'ajouterais, ça marche, et peut-être qu'on n'y croit pas assez aujourd'hui.
Oui. Alors, l'an dernier... Il est paru un livre que vous avez dirigé et dans lequel vous vous exprimez. Alors, ce livre, il s'appelle « Et vous m'avez accueilli, contribution pour une église vivante ». Ce livre rapporte l'expérience d'un lieu d'église original à Paris, le centre pastoral Saint-Méry dans le 4e arrondissement, près du centre Pompidou de Beaubourg. C'était le cardinal Marty qui avait voulu ce lieu d'expérimentation pour témoigner de l'évangile et inventer des modes nouveaux pour l'église de demain. Cette expérience a pris fin en mars 2021. Pouvez-vous nous dire comment vous avez participé à la vie de Saint-Méry et nous rapporter deux ou trois fruits portés par ce centre pastoral Saint-Méry?
Ma rencontre avec le centre pastoral Saint-Méry, ça part, je dirais, d'une déception qui était dans ma paroisse, dans le 20e arrondissement. J'ai toujours été fidèle à l'Eucharistie et je rentrais en particulier des cérémonies dominicales, toujours insatisfait parce que la vie du monde n'était pas présente du tout dans cette grande célébration de la victoire de la vie sur la mort. Alors je râlais, j'étais pas content et puis un jour c'est Xavier de Chalandard, quelqu'un qui a beaucoup marqué et qui m'a dit « Mais viens à Saint-Méry, depuis 40 ans nous inventons des chemins nouveaux ». Tout à fait fidèle à l'Église et à l'Évangile. Voilà. Alors, ce que j'ai surtout reçu, c'est, je dirais, trois choses. Un, c'est l'importance de... On revient à cet ensemble. C'est une communauté qui accueille des gens très, très différents. Des gens aux marges de l'Église, des très fidèles et classiques dans l'Église. Pas beaucoup de jeunes, il faut le reconnaître aujourd'hui. Mais l'ensemble, ça, c'est très important, avec nos diversités. C'est des fois un peu rugueux. La deuxième chose, c'est... la célébration, la liturgie, la prière, là aussi, ça se construit ensemble. Ça se vit ensemble. Et c'était les préparations de la messe du dimanche qui se préparaient tous les lundis. C'était bien d'autres choses qui se faisaient ensemble. Donc, une liturgie ou la prière, ce n'est pas une petite opération personnelle, même si parfois la prière individuelle est nécessaire, mais elle est toujours nourrie par cet ensemble. Puis la troisième chose, c'était la présence dans la vie. Présence dans un quartier de Paris, celui de Beaubourg avec le Grand Musée, celui d'un quartier qui change beaucoup, et puis celui du monde. On a reçu beaucoup au moment des dictatures latino-américaines, et puis après c'était des réfugiés d'Union soviétique, et puis après c'était des sans-logis, etc. Donc vous voyez ces trois aspects, le ensemble, la dimension liturgique et puis une présence au monde pour que l'évangile soit pas simplement une petite recette qui m'aide à passer la journée, mais véritablement quelque chose qui change ma vie parce que je sais que je suis aimé.
En vous écoutant, j'ai l'impression qu'on pourrait utiliser des mots qui reviennent peut-être plus fréquemment maintenant, à la fois la synodalité, la faire église ensemble et avoir des responsabilités de s'engager ensemble en église, et un peu en opposition au cléricalisme.
Oui, mais alors j'aime pas les mots opposition parce que il s'agit pas de râler contre, il s'agit de faire pour. Et la référence, ben, la référence, c'est l'Évangile. Alors vous avez une bonne nouvelle, vous avez quatre textes qui nous disent quoi, mais qui nous racontent tous des histoires de marche et de marche ensemble. Alors c'est autour d'une personne, mais cette personne, elle est toujours à l'affût des autres, et puis les autres le trouvent plutôt intéressant, et du coup les autres vont l'entourer. Donc c'est vraiment la référence évangélique, si vous voulez, qui pour nous est importante parce qu'on y voit justement ce marcher ensemble. Alors, c'est pas contre. Alors, c'est par contre, oui, pour dire il y a des excès dans l'Église, le cléricalisme, et en particulier une espèce de sacralisation de la personne du prêtre. Des fois, peut-être contre la volonté de l'individu lui-même, mais il serait dépositaire d'un message particulier, il aurait une mission de représentation, etc. Cette sacralisation, me semble-t-il, est exactement le contraire de ce que Jésus a dit dans l'Évangile. Je crains d'ailleurs qu'il ne soit mort à cause de sa dénonciation de cette fausse sacralisation. Alors, ces aspects-là, si vous voulez, qui font que l'expérience de Saint-Méry, aujourd'hui Saint-Méry hors les murs, j'espère pas pour trop longtemps, l'expérience du centre pastoral Saint-Méry, c'est vraiment une expérience de redécouverte de l'Évangile. C'est la boussole. Et c'est pour ça que je ne suis pas en opposition. Je suis avec tous ceux qui acceptent de lire l'Évangile et de le traduire, de manière très différente, mais de le traduire dans la vie.
Bien, donc je pense que vous aurez l'occasion de nous en reparler puisque vous viendrez à Chartres le 29 septembre à la visitation 26 rue d'Aligre à Chartres à 20h30. Ce sera dans le cadre d'un cycle de conférences-débats proposé par le Centre de réflexion chrétienne. Et l'intitulé de votre intervention, de votre conférence, c'est À l'affût de l'aube. Vivre et dire Dieu avec un point d'interrogation. Alors, pourriez-vous nous dire pourquoi vous avez choisi ce titre?
Peut-être un mot sur l'aube. Je ne sais pas si vous avez assisté au lever du jour, à l'apparition du soleil, à l'aube. Moi, je suis toujours fasciné par ce moment de l'aube. Et je suis fasciné parce que dans l'Évangile, souvent, d'ailleurs, c'est de l'aube. Les femmes vont aller au tombeau après la mort de Jésus, avant l'aube. Les disciples d'Emmaüs, ils partent de nuit et reviennent de Jérusalem, l'aube commence à pointer. L'aube, alors pourquoi l'aube? Parce que je pense qu'on est dans un monde qui attend l'aube. Je parle là pas spécialement du monde chrétien, du monde en général. Il y a plein de problèmes, il y a plein de soucis, il y a beaucoup de choses qui pèsent, en particulier sur nos jeunes. On attend l'aube. Et on attend non pas une solution, mais une raison de se lever, une raison de. Et puis surtout de pouvoir mettre un pied devant l'autre et de marcher. Donc l'aube, pour moi, c'est très important et je pense que le message de la bonne nouvelle a quelque chose à voir avec l'aube. Alors, j'ai intitulé ça À l'affût de l'aube, c'est-à-dire, par exemple, pour nous, communauté chrétienne, quel est notre souci de ces nuits de l'humanité d'aujourd'hui et en même temps de son appétit. Cette humanité est un appétit d'aube et un appétit de sens. Alors, la deuxième partie du titre est un peu prétentieuse, dire et vivre Dieu, ça serait peut-être plutôt de dire et vivre l'Évangile, dire la bonne nouvelle que je peux recevoir de Jésus. Mais vraiment, ce mouvement de l'aube, c'est à la fois prendre conscience de la nuit et en même temps prendre conscience de notre envie de sens, de notre envie de lendemain.
Donc là, vous insistez un petit peu sur ce besoin d'espérer, ces raisons d'espérer qui vous semblent travailler un peu les hommes et les femmes de notre société, de notre temps, avec un appétit qu'il faut savoir repérer et la bonne nouvelle de l'Évangile à proposer face à cet appétit.
Je crois, vous savez, le Concile Vatican II parlait des joies et des peines, des angoisses et des réjouissances de l'humanité sont aussi les joies et les peines de l'Église. Et c'est ça pour moi, les nuits de l'humanité et l'aube attendue. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est tout à fait, je dirais, en concordance, en cohérence avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ.
Je crois que c'est important effectivement de ne pas oublier que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle et que ça doit être une bonne nouvelle pour notre temps. Guy Orange, il y a aujourd'hui dans l'Église catholique des peurs, des tensions, des résistances qui s'expriment devant les désirs de réforme qui apparaissent dans la démarche synodale. Et en même temps, il y a une promesse d'Église. Et promesse d'Église, hein, c'est le nom de ce groupe qui rassemble des associations très diverses dans l'Église catholique. Comment voyez-vous l'avenir du catholicisme ?
Ben, je dirais surtout pas de panique, les amis, pas de catastrophisme, que l'Église soit à réformer, mais les théologiens, les pères de l'Église nous ont dit, l'Église est toujours en réformation, en réformée. Ça, c'est tout à fait normal, parce que toute communauté est toujours à changer, à se convertir. Le cycle de nos rencontres parle justement de chemin pour une église en conversion. Ça, c'est pas nouveau, donc n'ayons pas peur de cela, même si ça nous ébranle, même si ça nous questionne. Et puis la deuxième chose, qu'il y ait des problèmes, des divergences au sein de cette communauté qui s'appelle l'église, là aussi, c'est pas nouveau. Alors, je ne vais pas minimiser du tout ces difficultés, et je pense que véritablement, il faut nous remettre ensemble autour de l'Évangile. Et à partir de là, eh bien, toi, tu me dis comment tu le lis et comment tu le célèbres. Ah ben, peut-être que ta manière de célébrer l'Eucharistie ne sera pas exactement la même que celle du centre pastoral Saint-Méry. C'est possible, mais je vais y communier. Je ne vais pas forcément y participer parce que moi, j'ai d'autres manières, mais je vais y communier. Tiens, ta lecture sur l'engagement social, ta lecture de l'Évangile, vous m'avez accueilli, par exemple. Ben, toi, tu vas la traduire, cette lecture, de telle manière, moi, je vais la traduire d'une autre manière. Donc, je crois que cette diversité qui nous fait peur, mais c'est vrai dans le monde, hein, c'est vrai dans la société aujourd'hui a peur de la diversité, eh bien, il nous faut des lieux où on puisse s'asseoir ensemble, et nous avons la chance, en Église, d'avoir cette invitation permanente, viens et suis-moi, cette invitation permanente à lire ensemble l'Évangile. Alors oui, il y a des difficultés, oui, nous sommes peut-être dans des périodes un peu charnières où il y a des choix à faire, mais que cette diversité ne nous fasse pas peur et surtout que nous ayons le courage, que nous luttions contre notre paresse à ne pas creuser sans cesse l'Évangile et à le creuser ensemble. Donc, moi, c'est une espérance. Oui, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Avocat de l'espérance », non pas pour dire « ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème », mais pour dire « l'espérance est bien vivante, mais souvent elle est cachée par des fatras de soucis, par des fatras d'organisation ». Alors, l'Évangile, justement, dégage tout cela. Allez, viens, suis-moi, et puis ensemble, tu vas voir où je te propose d'aller. Parce que tu n'es pas
bien.
Tout
seul. Eh bien, grand merci, Guy Orange, pour cette interview. Nous vous retrouverons donc le jeudi 29 septembre à 20h30 à la Visitation à Chartres. Cette conférence sera aussi accessible sur Zoom. Vous pourrez y accéder en tapant sur Centre de réflexion chrétienne en allant sur le site HELOASO, HELOASO. Et puis vous pourrez réécouter ou télécharger cette émission à toute heure en allant sur le site de Radio Grand Ciel. Au revoir, chers auditeurs. Merci à Simon qui a assuré la technique. Et à bientôt sur Radio Grand Ciel.